BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Cercle des économistes avec un invité de marque, en l'occurrence Louis Gallois, qui est coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Louis Gallois, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, puis vous êtes très accessoirement président du Conseil de Surveillance de PSA. Christian Saint-Etienne, bonsoir. Le Cercle des économistes dignement représenté. Vous êtes évidemment membre du Cercle des économistes et professeur au CNAM. Et Emmanuel Le Chip pour m'aider à peut-être à poser les bonnes questions. Bonsoir Emmanuel.
Mais non, il n'y a pas besoin.
Il y a beaucoup de questions, là, Louis Gallois, et justement, Christian Saint-Etienne et Emmanuel Le Chip peut-être vont vous challenger parce que vous faites des propositions dans le cadre de cette fabrique de l'industrie, oui. Notamment sur les allègements de charges. Co-président, l'autre co-président, c'est Pierre-André Tchalendar.
Absolument.
Il faut le citer, le patron de Saint-Gobain. On voit que les signes de reprise économique sont là, oui. En France, mais on a le sentiment que lorsqu'on regarde le taux d'utilisation des capacités industrielles, il est proche du maximum. Est-ce que l'industrie française peut soutenir cette croissance ?
L'industrie française travaille, comme vous le dites, à pleine capacité. C'est la première fois depuis 2008. On est d'ailleurs pas revenu au niveau de 2008 en termes de production, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction de capacité. Mais les capacités de production sont au maximum. Et d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est qu'avec ça, on a un déficit commercial qui va être de l'ordre de 64 milliards sur 2017. Ce qui veut dire que non seulement il y a un problème de compétitivité qui est un problème de fond, mais il y a en plus le fait que l'appareil de production français n'est plus en état, par sa taille, de répondre à la demande française et à la demande internationale parce qu'il est trop petit par rapport au pays.
Oui.
Et donc tout le problème, c'est de réindustrialiser la France.
Trop petit et trop affaibli. Et peut-être pas assez modernisé.
Non, il est trop petit. Les entreprises vont pas mal. Les marges sont remontées à un niveau qui est celui de 2001, entre 37 et 40%. L'industrie va bien, mais c'est une industrie réduite. Il y avait 4 fabricants de connectiques en 2000, il n'y en a plus qu'un. C'est Gattaz, Pierre Gattaz, Radial.
Absolument, il est président du MEDEF, c'est peut-être une chance. Christian Saint-Etienne, plus sérieusement, il y a une enquête de CEREX et Coach, je ne sais pas si vous avez vu, qui montre qu'il y a un problème de compétitivité des entreprises industrielles françaises et des questions salariales, une hausse de salaire beaucoup plus importante que notamment en Allemagne, et que les produits français sont de qualité, mais ne sont pas assez innovants et trop chers.
Alors, ils sont de qualité, en tout cas. Le problème, c'est qu'ils sont trop chers pour le niveau de qualité. C'est-à-dire qu'en dehors de quelques filières très, très rares, nous avons plutôt des produits de moyenne gamme à des prix supérieurs à nos concurrents qui produisent également de la moyenne gamme. Donc, on a un problème de coût par rapport au niveau de qualité. On a, comme Louis Gallois l'a dit, malheureusement, les effets de la désindustrialisation qui nous frappe depuis 20 ans. Elle n'a pas commencé en 2008. Elle commence en 99-2000. Donc on vient de subir...
Je pense même un peu avant, si vous me permettez.
Mais au moins 20 ans de désindustrialisation. Mais 99, c'est le dernier point haut de la part de la France dans les exportations mondiales. Et depuis 99, c'est une chute continue. Ouais. Et donc, nous avons perdu 35% de nos parts de marché, un peu plus de 35% de nos parts de marché à l'export au plan mondial. C'est la désindustrialisation la plus violente de tous les pays développés. Et nous avons, et de ce point de vue, il se trouve que le début de la glissade, c'est la mise en place des 35 heures, mais c'est pas les 35 heures, ce que je dis souvent, qui ont planté la France. C'est la vision qui s'installe au milieu des années 90, selon laquelle on serait entré dans les années 90, dans un monde post-industriel, post-travail. Or, ça, c'est une idée radicalement fausse. En fait, nous sommes passés à ce moment-là dans la troisième révolution industrielle, qu'on appelle à Davos la quatrième, ce qui est stupide, mais on est dans une nouvelle révolution industrielle. Oui. Et ça, on l'a complètement loupé en France et on a laissé partir à volo toutes nos...
Je n'ai pas tout à fait
Louis Gallois, vous n'avez pas complètement la même analyse.
Je pense que la désindustrialisation de la France a commencé plus tôt que ça. Qu'elle est due assez largement au fait que nous avons maintenu des taux d'intérêt extrêmement élevés au début des années 90 pour maintenir la parité entre le dollar, entre le Deutschmark et le franc. Donc avec des taux d'intérêt qui ont eu un effet d'asphyxie sur une partie de l'appareil industriel qui était endetté. Et que c'est là que ça a commencé. Ensuite, il y a eu, je le reconnais, les 35 heures, qui n'ont pas fait du bien à l'industrie, parce que, manifestement, l'industrie n'était pas prête à cela. Et puis ensuite, des évolutions de salaire qui ont peut-être été...
Mais pour c'est pas les 35 heures.
Oui, oui, attendez, on va parler d'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de questions qu'on va,
mais on subit encore les conséquences de et surtout, je pense, on n'a pas tourné la page.
Oui, mais on va parler des allégements de charges.
C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas compris que l'industrie, c'est l'essentiel des exports et l'essentiel de la R&D dite privée. Donc, si on ne reconstitue pas un moteur industriel puissant, on n'aura pas d'export et on n'aura pas de R&D.
On va essayer de voir justement comment exporter. Emmanuel, le chiffre.
Non, c'est vrai que.
Tout le monde d'accord.
Oui, non, c'est vrai que la désinflation compétitive, la politique qui a été menée dans les années 80 et 90 a été très efficace, mais vous avez raison, elle a été extrêmement brutale. Et un des reproches qu'on peut faire à cette politique, c'est qu'elle aurait pu être aussi efficace. En étant quand même un peu moins brutal. Après, c'est vrai qu'il y a les 35 heures, mais il se trouve qu'au même moment, il y a l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce qui se produit, c'est vrai, à un mauvais moment, à un mauvais moment pour nous. Et moi, je suis pas convaincu qu'il faille se focaliser sur l'industrie, parce que quand vous regardez nos problèmes à l'export, alors c'est vrai qu'on fait de la qualité espagnole au prix allemand. Ça, c'est à peu près.
C'est une formule
que pense le président du Conseil de surveillance de PSA.
Je termine juste pour vous dire très vite. En fait, notre seul problème industriel, c'est qu'on a juste pas les entreprises de taille intermédiaire qui sont l'apanage de nos voisins. C'est très simple. On a deux fois moins d'entreprises exportatrices que l'Italie, trois fois moins que l'Allemagne. On a trois fois moins d'ETI. Si vous prenez une ETI française, je veux dire, si vous prenez la même ETI en Italie et en Allemagne, l'ETI française, elle est capable de rivaliser. Donc notre problème, c'est avant tout qu'on n'a pas ces entreprises.
C'est la réindustrialisation du pays.
Voilà, comment faire aujourd'hui? Moi, je voudrais qu'on parle aujourd'hui.
Pour réindustrialiser, il y a deux voies. La première voie, c'est d'attirer les investissements étrangers. Ouais. C'est la voie qu'a suivi la Grande-Bretagne avec un certain succès. Avec le Brexit, ça va être plus compliqué, mais avec un certain succès.
Ouais. En France, les réformes.
Seconde chose, c'est de stimuler le tissu industriel français. Je pense qu'un certain nombre des choses qui ont été faites dans le bon sens.
Les réformes d'Emmanuel Macron,
Je défends le pacte de responsabilité de Hollande.
D'accord.
Parce qu'il a apporté, il a permis la reconstitution des marges des entreprises, et je sais qu'il y a des débats. Ce que je constate, c'est que l'investissement industriel est reparti, et que les créations d'emplois sont reparties dans l'économie française et que l'industrie française ne détruit plus d'emplois.
D'accord.
Alors, et que le redressement des indicateurs sur l'attractivité commence en 2016.
Ouais, absolument. Absolument.
Louis Gallois, et après Christian Saint-Etienne, est-ce que justement le basculement du pacte de responsabilité du CICE en allègement de charges, réforme d'Emmanuel Macron, est-ce que ça va dans le bon sens et à quelles conditions?
Moi, j'avais proposé, vous le savez, dans mon rapport, un allègement de charges et pas
vous le crédit d'impôt. Oui.
Donc, c'est une bonne chose. Ça ne va pas révolutionner, la donne, parce que les allègements sont là. Et même, ils vont perdre, les entreprises vont perdre un peu au change, puisque il y a un effet sur la fiscalité qui est un effet négatif. Bon, ceci étant dit, nous maintenant, ce que nous disons, ces allègements de charges ont surtout bénéficié au secteur abrité. Il faut maintenant que ça bénéficie au secteur exposé. Et le secteur exposé verse des salaires qui sont plus élevés que les deux fois et demi le SMIC qui est le plafond du CICE. Donc il faut porter ce plafond à trois fois et demi ou quatre fois.
Mais vous connaissez déjà, vous allez avoir la réponse.
Argument. C'est un débat que je connais par cœur, sur lequel j'ai été d'ailleurs interpellé de manière assez brutale plusieurs fois. Il ne s'agit pas là de création d'emplois à court terme.
Exactement.
Les créations d'emplois à court terme, effectivement, il faut alléger les charges sur les bas salaires parce que c'est là qu'il y a la réserve de main d'œuvre. Bien. Mais si on vise la compétitivité, c'est-à-dire l'emploi à long terme, eh bien, il faut faire des allègements dont bénéficie le secteur exposé, c'est-à-dire l'industrie et les services associés à l'industrie. Et ces secteurs exposés, ils ne servent pas des salaires très bas, ils servent des salaires intermédiaires.
Ouais. Christian Saint-Etienne, là-dessus, vous êtes d'accord avec le président Gallois?
Alors, il y a beaucoup de considérations techniques qu'on pourrait mener, mais sur le fait de monter le cliquet à 3,5, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, on pourrait imaginer un autre système qui serait une somme forfaitaire, qui serait défalquée des salaires, même jusqu'à 5 fois le SMIC, mais qui serait une somme fixe qui donnerait un effet maximal au niveau du SMIC, un effet moindre ensuite, mais ça éviterait tous les effets de seuil. Il y a plusieurs systèmes techniques. Mais je pense qu'il qu'il faut faire ça, mais surtout, ce qui est extrêmement regrettable, c'est le faible niveau de robotisation et le faible niveau d'investissement dans l'industrie depuis trop longtemps. Et donc, comme le disait à juste titre Louis Gallois, nous avons une grosse voiture avec un petit moteur. Hein, donc, on n'arrive pas à tirer les dépenses publiques et le poids d'autant plus que les compétences de la population active sont aujourd'hui très insuffisantes.
Justement, qu'est-ce que vous attendez, Louis Gallois? Je me retournais vers vous et après vers Emmanuel Le Chypre, parce qu'Emmanuel Le Chypre a dit qu'on avait un problème avec les PME, les ETI. Ça, c'est évident, on le sait bien. La loi Pacte, la loi en l'occurrence de Bruno Le Maire, oui, va jouer sur les effets sociaux.
Je ne connais pas, comme vous.
Non, mais on en connaît. Ben, je l'ai interviewé là-dessus. Il a dit quand même qu'il y aura quelque chose sur les effets sociaux et les effets fiscaux. Est-ce que pour vous, ça, effectivement, une sorte de lissage, ça va dans le bon sens, ça peut aider les PME?
C'est très difficile de lisser. Sur les seuils sociaux, les réformes du marché du travail qui ont été opérées ont quand même beaucoup atténué le problème des seuils sociaux. Beaucoup atténué le problème des seuils sociaux. Pour les seuils fiscaux, c'est à lui de voir. Moi je pense que toute réforme qui permet de lisser les seuils est bonne. C'est très compliqué sur le plan technique. Très compliqué sur le plan technique. Juste un mot sur ce qu'a évoqué Christian Saint-Etienne sur la robotique. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que nos PME n'ont pas encore pris le virage du numérique. Et ça, c'est un véritable sujet. Il y a un sondage qui vaut ce qu'il vaut, qui montre que seulement un tiers des PME considèrent le numérique comme stratégique, alors que 90% d'entre elles vont être impactées. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes de mobilisation, de sensibilisation des patrons de PME sur le numérique, parce que sinon, ils vont connaître des lendemains extrêmement difficiles.
Ouais, je voulais revenir brièvement sur cette question de l'industrie, parce que à la française, on est dirigé par un club d'énarques, hein, donc à la française, non mais à la française, Monsieur Gallois est différent, il a été dans l'industrie 20 ans, donc là, à la française, on traite ça comme voilà, aujourd'hui j'ai un problème d'agriculture, aujourd'hui j'ai un problème d'industrie, demain c'est la distribution, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réindustrialisation, c'est pas quelque chose, pas une mesure parmi 100. C'est la mesure centrale. Il n'y aura pas de sortie de crise de la France sans réindustrialisation. Or, on a évoqué les mesures sur le coût du travail, porter le cliquet à 3,5 du SMIC
au lieu de 4.
Mais je pense que c'est pas suffisant. C'est très très loin d'être suffisant. Il y a une mesure qui touche directement l'industrie de façon extrêmement positive, c'est l'amortissement accéléré. Parce que pour en bénéficier, il faut investir. Et c'est l'industrie qui investit parce qu'elle est très capitalistique. Donc je pense qu'il faut reprendre une mesure très forte sur l'amortissement accéléré. Et puis je le compléterai par une troisième mesure, parce que je suis aussi inquiet que Louis Gallois sur la faiblesse de la robotisation. Nous avons aujourd'hui des entreprises françaises qui sont moins robotisées que les italiennes ou les espagnoles. Donc je ferai un effort très, très, très net sur une incitation à la robotisation de notre secteur productif.
Oui, parce que la mesure sur amortissement, la mesure qui a été mise en place par François Hollande,
Elle a été arrêtée.
Elle a été arrêtée avec une assez bonne raison. C'est que la dynamique de l'investissement actuel est telle qu'il n'y a peut-être pas besoin soutenir au-delà
Attendez, je finis ma question. Si vous voulez bien. Ma question, c'était de dire, le problème aujourd'hui, c'est l'investissement dans l'immatériel. C'est surtout ça, la question. Les entreprises et les industriels...
Immatériel et matériel.
Oui, la robotique, il y a des robots. Aussi immatériel.
Oui, vous avez raison.
On voit bien,
vous
parliez de la transformation numérique et l'absence de prise de conscience de l'importance que ça a pour les entreprises. Donc, il faut aussi trouver des solutions par rapport à ça.
Moi, je pense que ce n'est pas de l'absence de prise de conscience. C'est une sorte de crainte vis-à-vis de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui va changer le modèle économique de votre entreprise, et vous ne savez pas comment prendre ce sujet. Et je pense que c'est une question de soutien aux chefs d'entreprise pour les aider à comprendre ce que c'est et les aider à concevoir ce que va être le modèle économique de leur entreprise dans les prochaines années.
Je voulais dire que Louis Gallois avait tellement raison sur ce point. Quand vous mettez en place un robot, je prends un système robotique de 100 000 euros. Le robot va coûter 40 000 euros et vous avez 60 000 euros d'adaptation des chaînes de production. Il faut reconfigurer les chaînes. Et c'est pas l'achat du robot qui fait peur, c'est tout ce travail. Et donc, par exemple, une des idées, c'est d'aider les gens à avoir des aides sur tout l'accompagnement de la robotisation.
Ouais. Une question, je voudrais revenir quand même, vous avez mentionné tout à l'heure sur l'évaluation compétitive. Je rentre de Davos, j'ai passé la semaine à Davos, j'ai écouté Donald Trump, c'est Carrie Cohn, son conseiller économique. On voit bien que la réforme fiscale, ben, elle séduit beaucoup, beaucoup les chefs d'entreprise européens et français. Ça, c'est un véritable danger pour peut-être pour l'industrie française ou pas, Emmanuel Le Chip?
C'est un danger par rapport à la deuxième composante qu'évoquait Louis Eloy, c'est-à-dire l'attractivité, c'est un petit peu c'est les renforts dont on a besoin, dont les entreprises françaises industrielles ont besoin. Il faut qu'elles viennent, soient attrayantes pour les grandes entreprises étrangères. Donc c'est vrai qu'il y a dans toutes les guerres dont on parle, c'est ça qui est frappant.
Et puis,
c'est qu'on nous parle de guerre des monnaies. Il n'y a pas plus de guerre des monnaies.
Il ne peut pas y avoir de guerre des monnaies.
Personne ne maîtrise vraiment sa monnaie aujourd'hui. La guerre commerciale, elle existe déjà. Non, la vraie guerre, la guerre qui est rentrée dans une nouvelle dimension, c'est la guerre fiscale. Et là, pour le coup, mais là, quand même, on a une étape qui est vraiment franchie. Et là, il faudra effectivement une réponse adéquate. C'est le moment où
J'ai un avis assez tranché là-dessus. Je pense que la réforme fiscale de Monsieur Trump pose un problème de fonctionnement de l'économie mondiale. On est rentré dans une bagarre l'abaissement des prélèvements fiscaux partout, mais comment on va financer la dépense publique et quelle dépense publique?
Mais il faut la réduire, la dépense publique.
La vraie question, c'est quelle dépense publique? Aux États-Unis, elle est trop élevée, la dépense publique? Ça me paraît pas évident. Chez nous, c'est un autre problème de l'Europe. Mais moi, je pense que se lancer dans cette guerre fiscale, c'est aller. D'ailleurs, Macron l'a très bien dit à Davos. Il a dit la guerre fiscale et la guerre sociale, c'est-à-dire l'abaissement des niveaux sociaux, c'est une guerre qui ne peut conduire nulle part. Et moi, je pense qu'on ne peut pas accepter cela. Et qu'il faut le dire avec beaucoup de netteté. Peut-être. Considérer que les pays qui pratiquent ainsi le dumping fiscal, eh bien, il faut savoir ce qu'on fait vis-à-vis d'eux en termes d'échanges commerciaux. Moi, je pense qu'on ne peut pas accepter qu'un pays pratique le dumping fiscal de cette manière.
Et sur la guerre des monnaies, quoi, on a un peu assisté. Vous avez toujours battu contre l'euro fort en disant.
Je me suis toujours battu et je vois d'ailleurs que l'évolution actuelle de l'euro est à son renforcement. Ouais. Je pense qu'on va retrouver les problèmes qu'on a connus quand j'étais patron de ADS, c'est-à-dire d'un euro qui a un effet d'étranglement sur une partie de l'industrie, et je crois que on n'en est pas là, 1,25, on n'en est pas là. Mais si on remonte à 1,40, 1,50, 1,60 comme j'ai connu, là on a un véritable problème. Et où Trump veut-il s'arrêter? Lui, il dit qu'il veut un dollar fort, mais son ministre du Trésor dit qu'il veut un dollar faible. Manifestement, il veut un dollar faible maintenant pour avoir un dollar fort ensuite. Mais le dollar faible, ça fait également partie de la bagarre. Et je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Le Chiffre. Les monnaies, ça se gère aussi. Quand Monsieur Draghi fait des déclarations, ça a un impact sur les monnaies. Quand Monsieur Trump fait une déclaration, ça a un impact sur les monnaies.
Ça joue sur quelques centimes, mais vous pouvez plus dire qu'il s'agit de dévaluation au sens où vous fixez le niveau de votre monnaie.
On voit bien l'impact
mais c'est un centime ou deux par rapport au problème de dette extérieure, de flux de capitaux.
Je voulais dire à propos de la guerre fiscale et sociale, je me bats sur ça, je ressors un livre, c'est pas pour en parler, mais qui parle de la guerre fiscale et sociale. Je suis un de ceux qui a montré qui ont montré que le traité de Maastricht est à l'origine de la guerre fiscale et sociale en Europe. Je voudrais rappeler ici que c'est pas les Américains qui commencent la guerre fiscale, c'est à l'intérieur de l'Europe qu'on a eu l'idée de faire ça. On a quand même atteint le summum en 2010 quand on a apporté 85 milliards d'euros à l'Irlande pour qu'elle continue de nous faire concurrence avec un taux d'IS à 12,5. À l'époque, la France et l'Allemagne voulaient demander qu'en contrepartie l'Irlande remonte son taux d'impôt sur les sociétés. C'est la Commission européenne alliée avec le Royaume-Uni qui ont cassé l'initiative française et allemande sur ce sujet. Donc je suis totalement d'accord sur ce point. Je suis personnellement favorable à des minima fiscaux et sociaux. Ça serait quand même pas scandaleux qu'on dise que sur la fiscalité des sociétés et la fiscalité de l'épargne, par exemple, on impose un minimum de 20%. Vous mettez à 30 si vous voulez, mais vous avez un minimum de 20. Parce que si la France demain passe à 20, 20, il y en a d'autres qui vont passer à 10.
Non, mais il y a des enceintes internationales, et je suis quand même très frappé de voir le FMI qui vient de décerner un brevet de bonne conduite à M. Trump pour sa réforme fiscale, qui est d'ailleurs une réforme profondément inégalitaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je trouve que ça va fort. Alors, vous dites que les industriels français sont tentés, évidemment, quand on baisse les impôts.
Ah oui, ça, je peux vous dire. J'ai posé la question à tous ceux que j'ai rencontrés.
Quand on baisse les impôts...
Posez la question à Carlos Tavares, à mon avis. Je veux dire, quand même, sûr. On dit 15%. Je vais regarder.
Mais c'est normal. Ouais. On souhaite tous des baisses d'impôts. Mais moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'avoir laissé au sein de l'Europe l'Irlande et le Luxembourg avoir des systèmes fiscaux totalement aberrants par rapport au reste du continent, ça pose un problème.
Aujourd'hui, on paye l'hypocrisie aujourd'hui. Juste, il nous reste très très peu de temps. S'il fallait la stratégie industrielle pour sauver, booster et faire grandir l'industrie française, s'il y avait une mesure à prendre, ça serait laquelle, Gallois ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas une mesure. Qu'il faut taper sur l'investissement, l'innovation et les compétences. Moi, je pense que les compétences, c'est un vrai sujet majeur.
Y compris celle des chefs d'entreprise.
Pardon ?
Y compris celle des chefs d'entreprise.
Celle des chefs d'entreprise, bien sûr.
Non, mais des PME, notamment.
Mais je pense que sur les compétences, il y a un énorme effort à faire.
Oui, ça, je pense que c'est un point important. Autre sujet de débat ou de rendez-vous du CERF des économistes, parce qu'on ne va pas le faire en deux minutes, évidemment. Évidemment, c'est très important.
Christian, ça c'est les mêmes ingrédients, et notamment sur les compétences, la réforme de la formation professionnelle et l'apprentissage est absolument clé. Le choix qui va être fait sur qui aura la responsabilité d'animer le système entre les régions et les branches, ou quel équilibre entre les deux, c'est quelque chose qui est très important. Sur la formation professionnelle, sur les lycées techniques, il y a une vraie interrogation. Faut-il laisser les lycées techniques dans l'éducation nationale ou les sortir, comme l'éducation agricole ? Parce que, quand même, depuis 40 ans, c'est l'éducation nationale qui gère ça comme une filière d'échec.
Je pense
il faudrait reconstruire une filière extrêmement puissante de formation professionnelle.
Je pense que c'est pas une question institutionnelle. La bagarre entre les régions et les branches, bon, je suis plutôt du côté des branches puisque je suis industriel, mais c'est pas le principal. C'est qu'il y a 700 000 élèves dans les lycées professionnels, il y en a 40 000 en apprentissage. Ça montre que tout le problème, c'est d'aller prendre les... Il faut que l'éducation nationale achète l'apprentissage et mette de l'apprentissage dans les lycées professionnels.
C'est un choc culturel, effectivement.
Non, c'est un choc culturel
J'ai une question, peut-être, mais très rapidement. La SNCF, lorsque vous voyez le sous-investissement majeur de la SNCF, vous qui avez dirigé, mais il y a quand même longtemps, cette entreprise, comment vous expliquez cette situation aujourd'hui ?
Le sous-investissement, je vais dire que j'en prends ma part, puisque le premier rapport sur le sous-investissement sur le réseau classique a été fait à mon époque par des gens de l'université de Lausanne. Donc c'est un vieux sujet. Tout le problème pour la SNCF, c'est de savoir ce qu'on va faire de sa dette. Moi, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que j'aime pas beaucoup parler des boîtes dans lesquelles j'ai sévi. Tout le problème, c'est de savoir si cette dette a plombé et plombe la SNCF depuis maintenant 20 ans.
C'est là qu'est le sujet.
C'est quand même le sujet de l'État mauvais actionnaire.
L'État mauvais actionnaire, mais ça vous fait beaucoup de sujets. On reviendra, on vous retrouvera ici.
Du travail à la SNCF.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Christian Saint-Etienne pour le CERF des économistes, Emmanuel Le Chiffre. Et donc, grand témoin, Louis Gallois, co-président de la Fabrique de l'Industrie. Tout de suite, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. On se retrouve bien sûr demain. Et puis, je recevrai Philippe Varin jeudi soir pour le lancement de France Industrie.
Bonne
soirée.